Notre invité ce matin sur Alpe 1, c'est un scientifique, un journaliste, un essayiste, également ex-directeur de la communication au sein d'ITER, Michel Classens, bonjour.
Bonjour.
Et aujourd'hui, lanceur d'alerte auprès de la Commission européenne. On va voir pourquoi. Vous avez publié plusieurs ouvrages sur le Covid. Vous avez aussi publié plusieurs ouvrages sur ce projet ITER. Alors ITER, qu'est-ce que c'est? On va le rappeler. Un réacteur expérimental financé par 33 pays, l'Union européenne, la Russie, le Japon, l'Inde, les États-Unis, la Corée du Sud et la Chine. Selon la direction, la fusion nucléaire qui alimente les étoiles et le soleil pourrait devenir d'ici la fin du siècle une source d'énergie commerciale. Et c'est un petit peu ça le sens aujourd'hui d'ITER. Comment on passe, Michel Classens, du statut « je suis fier de mon entreprise en tant que directeur de la communication » à « aujourd'hui je suis un lanceur d'alerte et je vous alerte justement sur les dangers potentiels de mon ancienne entreprise ».
Oui, alors, c'est pas incompatible pour moi, donc je reste convaincu que ITER est un projet indispensable, qui nous apprend beaucoup, qui nous apprendra encore beaucoup de choses, qui nous apprend entre autres à travailler avec 33 pays de cultures différentes, sur des technologies de pointe, donc c'est de ce point de vue-là, c'est un projet très intéressant. Simplement, donc, ayant un pied dans le projet, ayant un pied aussi à l'extérieur, je suis bien placé aussi pour faire le trait d'union entre ce projet et la société, notamment via des interviews comme aujourd'hui. Et j'ai soumis en effet un rapport à la Commission européenne, au Conseil ITER, à la fin de l'année dernière, pour attirer leur attention sur un certain nombre de problèmes, notamment en termes de gestion de personnel et en termes de radioprotection.
On va revenir sur ces deux points, mais tout d'abord, j'aimerais revenir sur ce que vous écrivez dans votre rapport. Vous dites, et vous l'inscrivez, « Aujourd'hui, je me sens assez en sécurité pour pouvoir parler. » Vous vous sentiez menacé?
Oui, quand même. Donc, je prends des risques en faisant cette démarche. Je dis des choses qui ne plaisent pas à tout le monde, c'est sûr. Depuis que je suis intervenu la semaine passée au Parlement européen, j'ai reçu énormément de messages de soutien, d'encouragement et même de nouveaux témoignages. Donc, soulignant des problèmes à l'intérieur du projet.
Mars 2015, le nouveau directeur d'ITER, Bernard Bigot, vous remercie. On peut se dire que peut-être aujourd'hui que vous souhaitez un peu régler vos comptes?
Non, j'ai tourné la page de cet épisode-là. J'ai accumulé trop de témoignages, trop d'informations. Et que je ne veux plus garder uniquement pour moi. Il y va de l'intérêt du projet, il y va de l'intérêt de la santé des collègues qui travaillent pour ITER. Je ne peux plus garder ça uniquement pour moi. Il faut qu'il y ait des méthodes qui changent dans l'intérêt du projet. On parle quand même d'investissement de milliards d'euros.
De milliards d'euros, justement, c'est la question que j'allais vous poser. On en est où aujourd'hui sur ce projet ITER? Normalement, les premiers essais devaient avoir lieu en 2016, on est en 2022. Normalement, le projet devait coûter à peu près 4 milliards d'euros, on est à 41 milliards aujourd'hui, 10 fois le montant initial. Et en plus, février 2022, l'ASN, le gendarme du nucléaire, décide d'arrêter l'assemblage du réacteur. Pourquoi?
Oui, donc.
Pourquoi ces retards? Pourquoi ce surcoût? Et pourquoi cet arrêt?
Alors, ce sont de très bonnes questions. Vous avez raison de rappeler ces chiffres. En effet, donc à l'heure actuelle, au lieu de 2016, la date officielle du début des expériences est 2025. Bon, on sait aujourd'hui que on ne tiendra pas ce calendrier. l'organisation ITER devrait annoncer un nouveau calendrier, je pense, à la fin de cette année, mais des contacts que j'ai à ITER, tout le monde sait bien que ça ne sera pas tenable. Ou plutôt, ce serait sans doute 2027 pour le début des expériences, mais de manière plus réaliste, probablement, vers 2029-2030. Alors, évidemment, chaque jour de retard entraîne une augmentation du budget. C'est quasi mécanique. On sait depuis le départ que c'est un projet compliqué. Ça, 33 pays qui construisent une machine très sophistiquée ensemble, évidemment, c'est un énorme défi. Le projet restera compliqué jusqu'à la fin. Mais voilà, il y a des problèmes techniques, des décisions qui ont été prises qui ne vont pas dans le bon sens. C'est pour cela que l'ASN donc, a décidé le 25 février, donc il y a à peu près un mois, d'arrêter l'assemblage du réacteur.
On parle d'erreur là. On parle vraiment d'erreur et de remise en question aussi de la sécurité.
Oui, il y a eu des erreurs en effet qui ont été commises. Je vais pas dire c'est humain, c'est normal. Bon, ça peut arriver évidemment. Donc il faut l'ASN a demandé donc d'apporter des correctifs. Ce sont des correctifs pour les murs de protection biologique. Les trois bâtiments nucléaires à ITER, dont celui du réacteur, sont entourés de murs en béton nucléaire, un béton spécial, qui ont jusqu'à 2 mètres d'épaisseur pour arrêter les radiations, les rayonnements.
C'est le fameux bioshield hein, qui entoure le tokamak.
C'est ça.
Et qui doit protéger normalement les travailleurs.
Tout à fait, et l'environnement. Et donc... à cause d'erreurs de conception et de fabrication, la protection biologique de ces murs sera grosso modo 30% inférieure à ce qu'elle devrait être.
Ce qui veut dire que les travailleurs et l'environnement seront soumis à des radiations ?
Et si on ne fait rien, oui, en tout cas, oui, tout à fait. C'est pour ça que donc l'ASN a demandé à l'organisation ITER d'apporter une solution technique. Concrètement renforcer justement la protection biologique. Mais pour le moment, la solution qui a été proposée par l'organisation ITER n'a pas été acceptée par l'ASN. Alors, voilà, tout est un peu lié. Il faut renforcer la protection biologique, ça veut dire installer des composants supplémentaires. Et l'ASN, là aussi, a mis un stop. Elle dit, bon, montrez-moi de quoi il s'agira. Et vérifier que le poids total ne va pas dépasser les 400 000 tonnes que peut soutenir la dalle de béton qui soutient les trois bâtiments nucléaires.
Mais vous parlez aussi de calculs faux. Alors, je vais essayer de faire simple. Ce sera peut-être à vous de réaliser l'exercice de vulgarisation, mais il y a eu des simulations qui ont été réalisées. Et vous écrivez, le pire des accidents envisageables pourrait libérer au moins 10 fois plus d'iode 131 qu'un réacteur de fission à eau pressurisée.
Oui, là j'évoque, c'est un autre problème, donc il ne faut pas mélanger. Donc, il y a eu un groupe de travail sur l'iode 131 qui serait produit une fois que les réactions nucléaires vont démarrer. Alors ce groupe de travail a conclu qu'en effet... Alors, ils ont fait des simulations. La concentration d'iode 131 qui serait relâchée en cas d'accident pourrait être plus importante que pour un réacteur de fission nucléaire. Donc, ça paraît en effet incroyable. C'est la conclusion du groupe de travail. Cette question-là n'est pas terminée à l'heure actuelle. Elle est toujours en chantier et toujours examinée par des experts. Donc là, il faut rester prudent.
Ouais. Mais alors, vous dénoncez donc des risques humains, des risques environnementaux. Vous dénoncez aussi un projet politique. Et vous l'expliquez, c'est un projet de longue date. Déjà, on en parlait en 1985 autour de la table Ronald Reagan et Mikhail Gorbatchev. Quel est le problème, finalement, qu'un projet ne soit qu'à vocation politique ?
Mais c'est-à-dire que, évidemment, le projet est né d'une initiative politique, qui a été porté par Mikhail Gorbatchev et Ronald Reagan en 1985. Ça a été vraiment le point de départ, le moteur politique indispensable peut-être pour ce projet. Après, tout s'est mis en place avec certaines lenteurs, mais le projet, en effet, a vu le jour très concrètement en 2006 lorsque l'accord ITER a été signé au Palais de l'Élysée en présence du président Jacques Chirac. Le problème à l'heure actuelle, c'est que le management est toujours très politique pour ce projet. Les nominations, les promotions ne sont pas toujours basées sur la simple compétence.
Vous parlez même d'un petit groupe qui n'est pas inscrit dans l'organigramme d'ITER et qui agit un peu en coulisses.
Oui, c'est ce que des sources internes me disent, en effet, que voilà, le management n'est pas adapté, en fait, à la complexité scientifique et technique du projet.
Management toxique aussi, vous parlez de licenciement abusif. Ça, j'allais dire, c'est presque moins grave à ce qui suit. Des accidents cardiaques, des suicides, des tentatives de suicide, y compris sur le site de Cadarache.
Oui, oui,
tout une à pression. Fait.
Oui, donc mes collègues en tête-à-tête, en me demandant de ne pas les nommer et en faisant tout pour ne pas être connus, c'est-à-dire qu'on parle sans, pas par email, même pas par téléphone, ils me disent quasiment tous, en tout cas ceux qui veulent parler, le stress est insupportable. Les décisions changent parfois de manière incompréhensible. On a peur d'être viré, de perdre notre emploi, d'être déplacé. Donc voilà, c'est une gestion par la peur qui s'est installée dans tout le projet et qui va au-delà de Cadarache. Donc ça a gagné aussi l'agence européenne à Barcelone. Je ne sais pas comment ça se passe dans les autres pays, je n'ai pas d'informations, mais en tout cas ici en Europe, dans les sites principaux, Cadarache et Barcelone, il y a un stress et une peur, c'est une gestion par la peur.
Vous attendez quoi aujourd'hui du Parlement européen, d'arrêter ce projet ITER ?
Non. Non, je reste convaincu. Il faut faire ITER, il faut le mener à bien. Simplement, il faut changer le management. Ce n'est pas acceptable que le personnel soit sous pression. J'ai encore appris, il y a 2 semaines, il y a eu un suicide sur le site de Cadarache, dans un des contractants du projet. Donc voilà, ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. Ça dénote un malaise très profond. Certains collègues parlent d'ambiance mortifère. Donc, il faut tirer la sonnette d'alarme. Et il n'y a pas beaucoup de personnes à l'heure actuelle qui peuvent le faire.
Et vous le faites. Hein, comme je le disais, hein, vous êtes lanceur d'alerte, voilà. Et vous avez saisi le Parlement européen. Merci beaucoup, Michel Classens, hein, d'avoir été avec nous ce matin. Oui. Je rappelle, vous êtes scientifique, journaliste, essayiste et ancien directeur de la communication à ITER. Merci.